bienvenue dans GaroPixel. GaroPixel, votre podcast rétro gaming, pas préféré, mais bientôt on l'espère. Vu tous les retours qu'on a eus, déjà on en est super content. On n'en a pas eu.
Sympa les retours, sympa.
On a beaucoup aimé. Donc on en est à l'épisode 2. L'épisode 2 va un tout petit peu changer. On n'était pas sur des catégories encore, donc on en a enlevé, on en a rajouté une. Vous allez découvrir ça dans le sommaire qu'on va bientôt vous présenter. Mais d'abord, je vous rappelle qu'en maître de cérémonie, c'est peut-être un peu fort quand même. Hein.
C'est un peu pompeux.
Un peu pompeux, oui, effectivement. Je me présente, moi c'est Buzz.
Moi c'est Laz.
Et on est content de vous retrouver.
Pour ce deuxième épisode de GaroPixel.
Ah oui, et qui se fait pas les semaines. Hein.
Oui,
je vais,
ça y est.
Je vais essayer d'y faire attention.
Ce coup-ci, Buzz, il est OK, là. Il s'est fait une idée. On n'enregistre pas toutes les semaines.
Voilà, je me suis un peu flagellé pour que ça rentre, mais ouais. C'est bon, ça y est.
Donc, c'est le podcast de l'été, le podcast de la chaleur.
Le podcast torse nu.
Oui, c'est clair. Impossible d'enregistrer autrement. En plus, on est obligé d'être barricadé pour éviter d'avoir des problèmes de son. Donc, je pense que ça risque de sentir le fauve à la fin de cet enregistrement.
Oh, c'est fort possible. Bon, je pense qu'on va passer au sommaire.
Ouais, allez, le sommaire.
Au sommaire de l'émission, on va commencer par les actus qui nous ont marqué ces derniers temps.
Ouais, c'est un peu la nouvelle section, on va dire, mais on a envie de donner notre avis. Après, il ne tient qu'à vous de l'écouter ou pas, mais bon, ça sera notre avis sur l'actu.
Ouais, parce que on se disait, tiens, c'est dommage de ne pas parler de petits trucs qu'on voit passer là, qui font partie de la vie du gamer de tous les jours, on va dire.
Ouais, et puis en plus, ce début d'été, il y a quelques actus en rapport avec le rétro gaming, chose rare l'été, donc autant en parler.
Ensuite, on va enchaîner par un test rétro d'un jeu sur arcade, le Super Sidekicks.
NBA Jam sur SNES, on continue sur les jeux de sport.
Après, bon, ça va bien 5 minutes, le sport. On a fait plaisir aux footballeux, là, avec Super Sidekicks, vu qu'il y a eu l'Euro. Hein. C'est un peu pour ça qu'on l'a pris. Bon, après, on s'est régalé. Hein. Mais on va passer à un jeu un peu plus péchu. Un jeu, c'est Tekken sur PlayStation 1.
On continue ensuite avec un test multiplateforme. Oddworld, l'Odyssée d'Abe sur PSX, pour ma part. Et Buzz a testé la version remasterisée dont j'ai oublié le nom sur PC.
Et on finira, comme d'habitude, nos tests avec le petit test indé du podcast, le petit jeu indé qui nous a bien plu et
qui nous a régalé.
Qui nous a vraiment régalé et qu'on va vous présenter. C'est One Punch Dead Finger sur PC et qui a été testé sur PC.
Bah, je crois qu'il est sorti que sur PC d'ailleurs.
Non.
Ah, mais j'aurais dû fermer ma gueule. Tiens, tes notes qui prennent feu, là. Oh. C'est assez cool. C'est le podcast de l'été, on a des incendies pendant l'enregistrement, c'est génial.
C'est fantastique. Et on va commencer ces actus tout de suite, maintenant, là, pour votre plus grand plaisir, avec Laz qui va nous parler de Pokémon Go, il me semble.
Ouais, ouais, les actus, tant qu'elles sont fraîches, comme mon poisson. Oui, donc, je vais vous parler de Pokémon Go. Alors, Pokémon Go, c'est sûr qu'au premier abord, ça fait pas vraiment penser à du rétro gaming. Mais il faut savoir que Pokémon, c'est un jeu qu'on peut considérer comme un rétro game. Parce que les premières versions de Pokémon sont sorties sur Game Boy. Et mine de rien, ça a une vingtaine d'années. Ou peut-être même plus d'ailleurs. J'ai pas de notes sur le sujet. Donc voilà. Compte tenu de la déferlante Pokémon Go sur le monde entier, j'ai installé le jeu sur mon iPhone. parce que je me suis dit je vais pas mourir bête. En plus moi je suis pas un joueur de Pokémon.
Alors attends, précise un truc, c'est que tu as installé une version particulière, pas la version française, vu que à l'heure de l'enregistrement, elle n'est toujours pas sortie.
Oui, oui. Alors c'est vrai qu'en France, le jeu est sorti apparemment sur Android, mais il est toujours pas disponible sur l'App Store français. Donc il y a un compte sur l'App Store US. J'ai installé la version US, qui d'ailleurs est entièrement francisée. Donc bon, c'est juste une limite de territoire. Alors on va passer sur le fait que certaines annonces ont dit que le jeu n'était pas sorti en France suite aux attentats de Nice. Bon, voilà, c'est un fait. Donc, j'ai testé ce Pokémon Go et je m'y suis pris. Alors, enfin, je m'y suis pris une heure parce que j'ai pas vraiment le temps d'arpenter la ville, les rues, toute la journée à la recherche de Pokémon. Certains ont des métiers ici. Mais bon, c'est assez grisant. Je me suis quand même retrouvé à faire comme tout ce qu'on voit sur YouTube ou sur les sites de news. Je me suis arrêté au milieu de la route pour choper Pikachu. Alors bon, je me suis pas arrêté au milieu d'une autoroute américaine, hein, en pleine heure de pointe. Je me suis arrêté sur un chemin qui, je pense, à part 10 riverains, personne ne connaît ce chemin. Mais Pikachu était là. Donc c'était génial. Donc voilà. Après j'aimerais bien avoir l'avis un petit peu de Buzz, qui lui est un joueur de Pokémon. Alors qu'est-ce qu'il pense de ce Pokémon Go?
Alors ce Pokémon Go, je vais être franc, j'y ai pas joué, je l'ai pas essayé moi-même. Il me plaît pas au premier abord, parce que je vois pas vraiment l'intérêt. C'est vraiment la découverte de l'histoire pour moi qui prime. Pour moi Pokémon c'est un RPG. C'est RPG enfantin, certes, mais qui demande énormément de tactique si on veut y jouer au niveau, si on veut trouver tous les Pokémon. S'amusera certes un gamin de 8 ans, mais un adulte peut y prendre tout autant de plaisir. Mais ça, juste une chasse pour marcher dans la ville, pour voilà, être obligé d'aller à des points particuliers pour pouvoir se friter dans ce qu'ils appellent les arènes, si je ne me trompe pas.
Oui, il semblerait. Moi, je ne suis pas allé jusqu'aux arènes en même temps. On habite dans une petite ville du sud de la France, donc c'est sûrement pas aussi facile que dans les grandes villes françaises de trouver des arènes et des choses comme ça. Je n'ai même pas essayé, d'ailleurs j'ai pas rencontré d'autres joueurs de Pokémon. J'ai pas testé complètement le jeu. Mais bon, toi ce qui a l'air de te déranger, c'est surtout le côté social. Bah, le fait de ne pas pouvoir jouer dans ton canapé.
Après, le côté cheating, là où on installe une appli, c'est ça qui te permet d'utiliser le GPS de l'iPhone pour faire croire que tu te déplaces.
Oui, voilà. Il y a ça sur iPhone.
Je trouve ça encore plus
cuit.
Débile. Oui. Voilà, mais j'ai trouvé déjà, moi, les cheaters, ça m'énerve. Donc.
Oui, alors donc, pour un petit peu expliquer ce dont Buzz parle. En fait, il y a moyen, sur un Mac avec l'environnement de développement des applications iPhone, de cheater le jeu et en fait de faire, de rentrer en gros les coordonnées GPS dans le jeu plutôt que de se déplacer physiquement. Mais apparemment, les cheaters auraient été bannis et le cheat serait, enfin, ne marcherait plus.
Sinon, moi, pour moi, c'est pas un jeu. C'est un simulateur de balade, et pendant que tu te balades, t'attrapes des Pokémon. Pour moi, c'est pas un jeu. C'est pas vraiment un jeu.
Ouais. Ouais, c'est vrai que sans avoir testé les combats, les interactions entre dresseurs, ouais, oui, on peut avoir ça. Par contre, pour avoir testé dès le début des applications en réalité augmentée, parce que je trouvais ça très intéressant, il n'y a jamais vraiment eu d'application en réalité augmentée, à part celle de Google, mais bon, c'est quand même assez anecdotique, qui ont réellement marché et qui ont fédéré une communauté. Et là, c'est pour la première fois de l'histoire une application en réalité augmentée, parce que c'est ça en gros. Hein,
ah oui, tout à fait.
C'est regarder un Pokémon sur le fond de ton appareil photo, donc c'est pas. C'est de la réalité augmentée et c'est la première fois qu'une application en réalité augmentée fait un tel tabac.
Après, la réalité augmentée, tu sais ce que j'en pense aussi. Moi, je trouve pas ça encore formidable.
Ouais. Bon, mais c'est, en tout cas, voilà. Je pense qu'il y en a qui trouvent ça formidable.
Sinon,
c'est
après,
Nintendo
pour rester...
et tous les autres.
Ah oui, bah, Nintendo trouve ça forcément formidable. T'as vu le prix de l'action, elle a doublé en moins d'une semaine.
Ouais.
C'est, l'action, c'est, je crois, hier ou aujourd'hui, je ne sais plus, en regardant les news, qu'elle a dépassé en valeur celle de Sony. Nintendo
a une action
qui vaut plus cher que celle de chez Sony.
Oui, et pourtant, ils partaient de loin. En espérant que leur prochaine console ne soit pas basée uniquement sur ce genre de gameplay, parce que je pense que on serait assez déçu par la NX si la réalité augmentée le fond de marché de la NX.
Alors, tout support confondu aussi, enfin Android, iOS, machin, là, au niveau mondial, Pokémon Go, à ce jour, génère 10 000 dollars, pas de bénéfice, hein, génère 10 000 dollars par minute. Ce qui fait, grosso modo, 14,5 millions d'euros de dollars par jour.
Ouais.
C'est
pas mal. Hein.
Quand même énormissime. Bon, après, il faut payer les droits à Nintendo, il faut payer les droits
Nintendo
à ceci, il faut payer les...
Il n'y a pas que Nintendo, parce que c'est la Pokémon Company ou je sais plus qui...
Bah déjà, c'est une boîte à part. C'est...
Oui, Nintendo a que la moitié des parts, je crois, ou quelque chose comme ça. Et en plus, le jeu n'a pas été développé ni par Nintendo, ni par la Pokémon Company. C'est...
Tout à fait.
Ah, putain, j'ai perdu le nom, mais en fait, les développeurs, c'est ceux qui avaient développé l'appli de réalité augmentée de Google là, dont j'ai complètement oublié le nom, mais bon, ceux qui s'intéressent à la réalité augmentée iront se renseigner.
Voilà, et pour dire aussi, ça y est, j'ai oublié, pour dire aussi il y a plus au jour d'aujourd'hui aussi, voilà, pour des petits chiffres, j'aime bien les petits chiffres de temps en temps, mais pour montrer l'ampleur mondiale que
Monsieur
c'est à ce moment là c'est qu'il y a plus de joueurs de Pokémon Go en ce moment au niveau mondial, que de joueurs de Candy Crush.
C'est magnifique.
J'aime pas Pokémon Go, mais au final, c'est quand même mieux que Candy Crush.
Ouais, et puis pour la santé des gens, aller promener et chercher du Pokémon, c'est pas mal.
Oui, tant qu'ils font pas n'importe quoi, genre celui qui est tombé dans un étang, celui qui est rentré dans une voiture de flic, j'en passais des meilleurs,
oui.
Voilà. Ils ont été très très forts, surtout aux États-Unis d'ailleurs. Hein. Le Japon a, quant à lui, d'ores et déjà, le gouvernement japonais a sorti une brochure en 9 ou 15 petites images, un petit peu dans le style manga, pour expliquer comment on joue à Pokémon Go, à quoi il faut faire attention, qu'il ne faut pas le faire en voiture, etc.
Les règles de sécurité.
Autant pour les piétons que pour les conducteurs.
Oui, la gendarmerie française s'est fendue d'un tweet d'ailleurs aussi sur la bonne conduite à avoir en jouant à Pokémon Go.
Moi je pense qu'on en a assez parlé parce que de toute façon tout le monde en parle de ce jeu. Donc
voilà,
on a donné notre avis dessus. Et maintenant on va rester chez Nintendo et puis c'est moi qui vais vous parler de l'autre actu Nintendo de l'été. Quelque chose qui est arrivé mais alors on s'y attendait vraiment pas.
Comme ça, de nulle part.
Comme ça, de nulle part, est sorti officiellement. Sur le coup, j'ai cru que c'était quelque chose de chinois, une copie chinoise. Non, non, c'est un officiel Nintendo. C'est la Mini NES. La Mini NES, là, qui est grande comme
ma main.
Oui, voilà, comme deux paquets d'allumettes à peu près, un peu plus peut-être, deux gros paquets d'allumettes. Elle contient 30 jeux. Et 30 bons jeux parmi Double Dragon, Metroid, les 3 Super Mario, Castlevania. Enfin voilà, du très bon titre. Cette petite console va sortir alors au prix apparemment de 60 euros. Moi, ça me plaît bien. Elle est très limitée, certes. C'est vendu alors apparemment en pack avec son câble HDMI, ce qui sera très bien. Un câble USB. Attends. 1, 1, 1, 1.
Ça fait 1, 1, 1, 3.
Voilà, ouais. 12 câbles USB.
Avec 3 câbles USB, parce que 1, 1, 1, ça fait 3, il ne sait pas trop compter.
Un câble USB pour la recharge. Par contre, il faudra avoir son propre chargeur USB. Ouais, tout le monde a un chargeur d'iPhone ou de smartphone, en tout cas, chez lui maintenant. Donc, c'est pas tellement un problème. Une manette dans le style de la NES d'antan, qui est 100% compatible avec la Wii et la Wii U pour tous les jeux émulés NES qui sont dessus via le Nintendo Shop. Voilà, donc 30 jeux, pas d'extension de jeu par contre, aucun port d'extension après derrière. On est limité à ces 30 jeux. Mais pour 60€, avoir une image correcte en HDMI, apparemment, hein, on n'a pas encore vu la bête, c'est qu'en précommande. Mais avoir une console officielle avec 30 très bons jeux, moi, ça me... pour une télé de maintenant, ça me va très bien pour 60€. Et le côté collectionnite aussi, ça rejoindra les autres.
Ouais, alors moi je vais le couper parce qu'il est trop gentil avec cette console du coup. Moi je trouve que c'est un peu limite quand même, parce que c'est... bon, certes, il y a des bons côtés. C'est facile à brancher, on branche ça en HDMI, on joue à 30 jeux. Mais le fait qu'il n'y ait que 30 jeux, déjà, et qu'il n'y ait aucune méthode d'en rajouter, on aurait apprécié une connexion Wi-Fi avec accès au store de Nintendo. Je pense que ça aurait été pas mal. Surtout que... Alors, la plupart, c'est des jeux que les...
Collectionneur,
non. Je parle pour moi. Le vrai rétro gamer, il aime les jeux et il aime aussi la machine sur laquelle ça tourne. Donc je pense que ça s'adresse pas vraiment à un public de hardcore. JK sort de ce corps. De hardcore rétro gamer.
Ouais.
J'y suis arrivé. Ça s'adresse pas trop à cette catégorie. C'est genre un peu pour le nostalgique qui veut jouer une demi-heure par an à Mario, qui a pas envie de se faire chier à brancher une vieille console sur une télé moderne, avoir des graphismes pourris, bien qu'on n'ait pas vu encore de graphisme, donc voilà. Et ce qui m'embête aussi, c'est que ce genre de machine, en fait, on peut faire ça très facilement avec un émulateur et un Raspberry. Et pouvoir jouer à 10 architectures rétro et des choses comme ça.
Ah oui, tout à fait. C'est pas rentable. J'ai jamais dit que c'était rentable. Moi, ça me... C'est d'avoir, en fait, officiellement... C'est bizarre. Bah, on dirait une cartouche 30 en 1 qui se branche directement en HDMI sur ta télé.
Mais en gros, c'est ce que tout le monde fait avec des machines portables, avec du rétro gaming. Et je trouve que juste Nintendo... Essayer de surfer et de gagner 4 ronds
ça me fait penser un peu à, comment ça s'appelle, à la Neo Geo X, là, la petite console portable qui était sortie. Voilà, ouais. Au final, ça apportait rien, c'était cher, ça marchait pas top. Mais à part que ça, ça vaut pas le prix d'une Neo Geo X déjà.
Ouais, et puis je pense que Nintendo aura sûrement mis un peu plus de soin.
Oui, ils ont quand même un certain niveau de l'adaptation
que ce qu'a fait. SNK à l'époque sur cette merde de portable.
Voilà, donc moi, vous connaissez mon avis, je suis assez pour. Je pense que j'en précommanderai une là d'ici peu parce qu'elle sera disponible. J'ai pas donné la date de disponibilité non plus. Elle sera disponible apparemment à la vente le 12 novembre 2016.
Et vous pouvez la précommander chez, on fait pas de pub, mais Auchan.
Voilà, on a trouvé un site français qui l'a fait en précommande, c'est Auchan. Bon, voilà. Mais il y en aura sûrement d'autres d'ici là. Vous pourrez la commander où vous voulez. Ça sera vraiment pas un souci.
Bon, mais voilà. En gros, c'était notre avis sur la Nintendo NES Mini. Et pour les actus, je pense qu'aujourd'hui, ça suffira. Donc, on va passer à notre premier test rétro. Le spécial Euro 2016 pour les footeux. Bien que ça ne soit pas nous. Buzz va nous présenter Super Sidekicks sur Neo Geo MVS.
Fans de foot qu'il y a et qui nous écoutent, enfin qui nous écouteront, on espère, nous avons testé ce mois-ci, ce podcast-ci, un très vieux jeu d'arcade, un très bon jeu de foot.
Je dirais rien, mais il a presque failli dire cette semaine. C'était pas loin.
Ah oui, je me suis fait violence. Flagelle. Oui. Bah. Donc, Super Sidekicks, sorti en 1992 sur borne d'arcade Neo Geo MVS, qui est aussi sorti sur Neo Geo AES, mais quelques temps plus tard, en 1993, et sur Neo Geo CD en mars 1995. Alors bon, c'est un jeu de foot, hein. Mais alors des plus basiques quand même, il faut le dire.
Ouais, donc on est à des années-lumière de ce que les fans de jeux de foot aiment avec FIFA ou PES, ou enfin tous ces jeux auxquels on joue pas.
Ce n'est pas du tout un jeu de simulation de foot, de simulation de match, c'est vraiment arcade. Il y a des tacles assassins, des coups d'épaule à casser des côtes, enfin bon, c'est...
Des fautes sifflées assez aléatoirement quand même.
Souvent sur la fin du match, quand il y a eu beaucoup de tacles à blanc, en fait, j'ai l'impression. Mais voilà, c'est très très arcade. Alors, il y a un mode de joueur, il y a un mode un joueur, hein, normal, où on se bat contre l'ordinateur pour gagner la coupe.
Et où on dépense des pièces de 5 francs.
Oui, les bonnes vieilles pièces de 5 francs. Et il y a le mode de joueur. Alors, le mode de joueur n'est qu'un versus, par contre. Il n'y a pas de mode coopération dans ce mode, dans ce jeu.
Non, mais en même temps, c'est un des... Je vais pas dire que c'est un des premiers jeux de foot parce que
non, il y en a eu d'autres, il y a eu des kick-offs sur.
Mais bon, ça commence à être un des jeux de foot arcade qui commence à être assez sympa graphiquement et enfin, ça ressemble un peu plus à un jeu de foot que ce que.
Ah oui, il était.
Que ce qu'on voyait avant.
Il était par rapport à ce qu'on avait sur console ou sur les ordinateurs et autres à l'époque. Les joueurs avaient vraiment des allures de joueurs. Il y avait des bons bruitages pour l'époque. Les bruitages étaient bons. C'était le haut de gamme. De toute façon, l'arcade, à l'époque, c'était le haut de gamme du jeu vidéo. C'est ce qu'on ne pouvait pas avoir à la maison. C'est pour ça qu'on y mettait des pièces. Sinon, on n'y aurait pas mis des pièces. Hein.
Alors, qu'est-ce que tu as d'autre à nous dire sur ce beau jeu ?
Alors, ce que j'ai d'autre à vous dire. Donc, on va rentrer un petit peu plus dans les détails de la chose. Donc, vous avez le choix entre 12 équipes. À la base, qui sont répartis entre deux groupes. Donc, quand vous jouez en un seul player, vous choisissez un des deux groupes, et puis, enfin, une équipe qui vous met dans un groupe. Les groupes sont toujours les mêmes. Par contre, ça, c'est pas aléatoire, c'est pas redispatché au début de chaque partie, de chaque nouvelle partie. Vous avez d'abord un match de poule à faire dans, enfin, un match de poule. Oui, c'est un match de poule
à faire. Comme ça.
À faire, mais il faut gagner tous ces matchs dans ce match de poule pour pouvoir accéder à la finale de la Coupe SNK qui vous met face aux finalistes, aux gagnants de la poule, de l'autre poule. Et là, vous terminez le jeu. Bon, nous, on n'est pas arrivé à ce niveau-là.
Non, d'ailleurs, on n'a fait que du versus.
On a fait beaucoup de versus. Si, on a fait un petit peu au début contre l'ordinateur.
On l'a testé il y a quelques semaines, maintenant j'ai un trou.
Et on a gagné deux ou trois matchs et on bloquait au troisième ou quatrième, suivant les équipes qu'on avait pris. On avait fait avec deux équipes différentes en un player, ouais. et après on avait fait deux, trois essais en deux players, si je me souviens bien. Et on s'était quand même bien régalé parce que...
D'ailleurs, le choix des équipes revient uniquement à choisir la formation sur le terrain. C'est un jeu de foot arcade très, très, très basique au niveau des concepts. Donc en fait, on ne choisit pas la formation 4-4-2 ou autre, je ne sais pas, je dis peut-être des conneries d'ailleurs, en n'étant pas un foot dans l'âme. Mais voilà, on choisit son équipe en fonction de la formation qu'on désire.
Voilà, et suivant la formation, elles sont plus ou moins en attaque, en défense, ou pas terrible, hein, parce qu'il faut le dire.
Genre pas terrible du tout, ouais.
L'équipe du Japon, même si c'est des Japonais qui ont fait le jeu, ils l'ont fait au niveau de l'équipe du Japon d'époque. Hein. Elle est vraiment...
Ah oui, c'est sûr qu'on est loin de Olivier Tom et des choses comme ça. Hein,
ah oui, là, c'est pas Olivier Tom. Alors, dans le gameplay, ce qu'il faut dire, c'est que donc, ça se joue à deux boutons, le stick deux boutons. Alors, en attaque, vous avez, quand vous possédez le ballon, vous avez la passe ou le tir, tout simplement. En défense, vous avez le tacle ou le coup d'épaule. Voilà.
Le coup d'épaule étant d'ailleurs beaucoup plus efficace que le tacle.
Oui, plus vif, c'est parce qu'il est plus vif, mais à moins de portée. Du coup, le tacle a plus de portée, peut se faire plus facilement en diagonale, de portée en diagonale aussi.
Le problème, c'est le masque de collision après entre les personnages.
Là, c'est le, voilà, là tu soulèves.
Au niveau du tacle, c'est vraiment
un mais problème. Même à la récupération du oui. ballon et tout, tu vois que même... de temps en temps, tu tournes autour du ballon sans le récupérer.
Oui.
C'est le seul point noir du jeu à mon goût, au final. Si ce n'est ces années après, parce que c'est le premier, c'est normal, il est moins beau que les autres. Le 2, le 3 qui sont sortis par la suite. Le concept est super bon, la réalisation est vraiment pas mal foutue. Il n'y a que juste ce masque de collision du ballon qui est un peu trop petit et qui, du coup, demande énormément de précision. Sinon, après, les commandes, au bout de deux parties, reviennent ou viennent assez vite. C'est vraiment pas le souci. C'est vraiment le jeu d'arcade d'époque. On comprend, il y a deux boutons, ça on voit. Hein.
En même temps, c'est compliqué de s'embrouiller avec deux boutons.
Mais on y arrive. On y arrive. Hein.
Oui,
on Combien y arrive. De fois, dans la panique, on tire au lieu de faire une passe ou inversement.
Ouais. Si, dans le gameplay, il y a un truc à noter aussi, c'est qu'on ne peut pas changer le joueur actif.
Oui, le joueur actif est désigné automatiquement par le jeu. Ce qui est des fois un petit peu particulier, parce qu'au moment où vous allez faire votre passe, vous avez si les joueurs à qui vous allez faire la passe sont un peu loin, en fait, ça vous montre une petite flèche en direction du joueur vers lequel ça va faire la passe. Et au dernier moment, au moment où vous allez appuyer, quoi, au centième de seconde près, hop, vous êtes rapproché d'un autre joueur. Du coup, la flèche change, la passe passe à un autre joueur. Mais un ennemi était venu s'intercaler entre et vous fait une interception.
Ouais, c'est un peu dommage, ça décale un peu le centre de l'action.
Voilà, c'est un peu particulier. Après, au niveau gameplay, ce qu'il faut juste préciser... c'est qu'il y a dans les deux équipes un joueur qui est marqué spécial, qui est un joueur qui court plus vite que les autres et qui tire plus fort que les autres.
Et qui est plus précis dans les passes.
Qui est plus précis dans les passes.
Et qui tacle mieux, en fait.
Voilà. Il est un petit peu meilleur que les autres à tous les points de vue.
C'est le Ronaldo de l'équipe.
Voilà, on pourrait dire le capitaine, quoi. Après, nous, quand on y a joué, c'était comme d'habitude, on l'a laissé en difficulté d'origine, difficulté 4. Donc on a un peu galéré contre l'IA, effectivement. Mais on arrivait assez facilement après à marquer des buts quand même. C'était nous en défense qui était plutôt mauvais. C'était plus ça le problème. C'était plus la défense que l'attaque au final. Oh, on s'est tapé des belles barres de rire quand même. Des beaux petits énervements justement parce qu'on tourne trois fois autour du ballon, qu'on n'arrive pas à le récupérer. Mais il y a des très jolis gestes, genre les petites talonnades qu'ils font là pour faire une passe courte quand le joueur est derrière. C'est assez... c'est assez stylé, faut le dire. C'est,
ouais,
assez
c'est
stylé.
Pas mal, ça sort un petit peu comme ça, quand ça en vit aléatoirement. Mais ouais, c'est pas mal. Mais en plus, il y a tous les ingrédients du jeu de sport d'arcade, quoi. C'est prenant à 200%. Ça va vite. Somme toute, on n'a pas parlé des graphismes, mais c'est pas mal.
Ah oui, c'est
vraiment
pas mal.
Sympa. C'est riche en couleurs.
C'est vu, comment dire, la vue...
C'est
en trois quarts de dessus, mais vue assez centrée sur les personnages. On voit vraiment pas tout le terrain en entier. Ce qu'il faut préciser aussi du coup, ce qui apparaît dans les autres jeux de foot, parce que ça manquait là, c'est une mini-carte pour t'indiquer un peu où tu es. Une mini-carte du terrain pour t'indiquer un peu où tes joueurs sont, tout ça, ça n'existe pas encore.
D'ailleurs, cette mini-carte sert après justement pour pallier un petit peu au fait que tu puisses pas contrôler quel joueur actif, quoi.
C'est le problème, c'est que nous on l'avait pas du coup parce que ça apparaît que dans les autres niveaux, quoi, que dans les autres versions. En conclusion, très bon jeu de foot.
Ouais, si vous voulez jouer un petit peu sur un jeu d'arcade à plusieurs, c'est un bon choix.
Ah ouais, un petit versus, c'est cool. Et maintenant, on va passer au deuxième test rétro, et c'est Laz qui va nous parler de NBA Jam sur Super Nintendo.
Encore un jeu de sport, c'est décidément notre podcast sportif. Donc ce jeu, c'est NBA Jam. Donc c'est un jeu de basket. Alors, NBA Jam, c'est un jeu de basket sorti en premier lieu sur arcade, publié et développé par Midway. Le développeur principal du jeu, c'est à noter, on le verra tout à l'heure, et monsieur Marc Turmel, excuse-moi pour la prononciation monsieur, et c'est un fan des Détroit Pistons. Alors, ce jeu a fait un gros carton en arcade. Au bout du premier trimestre, il avait déjà généré 1 million ou 1 milliard de dollars. J'ai un problème avec mes notes. Bon, bah, à vérifier. Donc, pour parler un peu du gameplay. Donc, c'est un versus 2 contre 2. Complètement irréaliste. C'est encore plus irréaliste que Super Sidekicks. Les persos sautent largement deux fois leur hauteur. Il y a des dunks où la langue française manque de superlatifs pour les définir. Alors, le côté irréaliste des actions est encore plus accentué du fait qu'on ait une barre de...
De turbo, ça s'appelle le turbo.
Merci de me sauver. Ouais. Une barre de turbo qui se remplit, comme toutes les barres, d'ailleurs, je vais y arriver, et qui permet de faire de passer en on-fire et de faire des gestes encore plus énormes. Donc, pour l'histoire un petit peu de ce jeu. Ce jeu présente les joueurs de la saison 93-94 du NBA, à l'exception de certains noms. Alors, on notera Jordan, pour une question de licence, Shaquille O'Neal, alors je ne sais pas pourquoi, et d'autres joueurs que je ne connais pas, qui étaient présents dans la version arcade de 93, et qui, suite à des décès ou des choses comme ça, ne sont plus présents dans la version console de 94. Alors, petit easter eggs, ceux qui ont joué au jeu auront sûrement remarqué que les tirs de dernière minute, quand on choisit les Bulls, sont toujours loupés. Concernant cet easter egg, le développeur a dévoilé en 2008 que, en tant que fan des Pistons, bah, il avait fait exprès de faire en sorte que les Bulls ratent systématiquement leur tir au panier dans les dernières secondes. Alors après, graphiquement, c'est un jeu qui est en digits. Et pour une fois, c'est pas trop dégueulasse. Je suis pas fan du tout des jeux en images digitalisées.
Ouais, genre Mortal Kombat, c'est pas...
Ouais, voilà, genre Mortal Kombat, tout ça. En général, je trouve ça assez moche. Alors, c'était certes un progrès pour l'époque, mais même à l'époque, j'adhérais pas des masses. Et là, c'est pas trop mal. Les décors sont assez sympas.
Le décor, hein, parce qu'au final...
Oui, c'est toujours le même décor.
C'est toujours le même décor. Le public, en fond, est assez neutre, mais il y a des petites animations avec des flashs, des trucs comme ça.
Ouais.
C'est sympa, ouais.
La musique est assez sympa.
Ah, c'est bien entraînant, tu sens que c'est bien de l'arcade.
D'ailleurs, ce qui est pas mal, c'est que la musique qui a été composée pour le jeu... Et a été après, pendant les matchs de NBA, tu as souvent des génériques, des choses comme ça. Et certains passages de la musique du jeu ont été reprises après, pendant les matchs de NBA. C'est assez marrant.
Très belle anecdote, effectivement.
Ouais. Après, on a joué à ce jeu sur Super NES, tous les deux, avec Buzz, là. Et on s'est bien amusé.
Ah oui, ça, on s'est très bien amusé aussi. C'était un très bon choix, là, encore.
C'est un peu dans la même veine que le jeu de foot qu'on a testé tout à l'heure, au final. C'est simple et efficace.
Et c'est même, on prend même plus vite du plaisir, au final, parce qu'il est encore moins compliqué à jouer que...
Ouais, il est très simple. En plus, on joue... Alors, donc, dans le principe, on choisit parmi, je sais pas combien d'équipes, mais une bonne dizaine d'équipes du championnat NBA, classées côte ouest.
Une bonne trentaine ou quarantaine d'équipes, oui, tu veux dire. Ah
ouais.
Oui, bah, y a deux fois...
Ouais, c'est vrai. Oui, il faudrait recompter. Et on choisit une équipe. Dans chaque équipe, on a deux joueurs de jouables. Et on choisit quel est le joueur qu'on va jouer. Alors là, c'est un peu comme dans le jeu de foot de tout à l'heure. On incarne qu'un seul joueur de notre duo qu'on choisit au début. L'autre joueur est tout à fait automatique. Enfin, avec quand même un petit bémol, on peut lui donner l'ordre de passer la balle.
Oui.
Donc du coup, on peut récupérer la balle et il n'est pas tout à fait, enfin il n'est pas tout le temps autonome. Donc quand il chope la balle, on peut lui faire rendre. Il se démerde pas tout seul après par la suite.
Mais après, il est bien codé, hein, il nous a bien les premiers temps quand on a rattaqué.
Oui,
là,
il était bien meilleur
plus,
que nous.
C'est plus lui, oui, qui marquait des paniers au début que nous. Hein,
ouais, c'est sûr.
Et qui faisait des meilleures récupérations d'ailleurs.
Ouais. Alors d'ailleurs, en parlant de récupération, le seul truc que j'ai pas vraiment trouvé super bien fait sur ce jeu, c'est les parades en défense. C'est vraiment on part d'un bout à l'autre et on marque parce que parer l'ennemi, enfin l'ennemi, ouais, c'est pas un shooter ou un fighting, parer l'adversaire, c'est vachement compliqué en défense. Surtout quand il a amorcé un tir. À la limite, quand il a encore la balle en main, on peut arriver à faire pour lui
oui,
piquer la balle. Mais,
à faire le mime, là.
Ouais,
oui.
Mais d'ailleurs, c'est assez marrant parce qu'on se retrouve très, très vite seul au milieu du terrain en train de mettre des grands coups de bras. Là, c'est assez fun. Mais par contre, dès qu'un shoot est amorcé, arriver à choper, à contrer la balle en l'air ou des choses comme ça, c'est relativement compliqué.
Surtout si on est mal placé et qu'on a le mauvais réflexe d'appuyer sur le bouton, du coup, notre perso se met à sauter, mais alors à 10 mètres de la balle, donc ça ne sert strictement à rien.
Ouais, disons qu'il faut être placé avec énormément de minutie, je pense. Chose qu'on n'est pas bien arrivé à faire, nous.
Et après, quand on arrivait à renvoyer la balle, la plupart du temps, le problème, c'est qu'on était sous le panier et on la faisait repasser par en dessous. Donc, on donnait le point à l'adversaire.
Ouais.
On a été très, très fort là, sur ce coup-là, d'ailleurs.
Ouais. Alors, dans le mode deux joueurs, on peut soit jouer en versus, le joueur 1 contre le joueur 2, soit incarner chacun des deux équipiers et jouer contre l'ordinateur. Alors, on a beaucoup joué à ça avec Buzz. C'était assez marrant. Et le niveau de difficulté, bon, on n'est pas allé super loin. On n'a pas passé des heures non plus à s'acharner pour battre toutes les équipes et tout. Mais le niveau est quand même assez sympa. C'est pas super dur. J'aurais aimé tester la version arcade pour voir un petit peu la différence.
Ah, la version arcade devait être, comme toutes les arcades, hein, elle devait être un peu retors, hein, c'était un mange-pièce, hein, faut pas l'oublier. Mais comme d'habitude, les 2-3 premiers matchs sont souvent assez faisables, mais c'est dans la suite que ça devient très compliqué, quoi, et qu'il faut être très bon en défense. C'est pas tellement l'attaque est assez facile, mais il est facile d'esquiver les autres. Mais,
moi, ce que je trouve fun, de toute façon, dans tous ces jeux, c'est de pouvoir entre potes s'affronter, c'est vraiment ce qui fait le...
ou s'épauler là, moi
ouais.
J'aime beaucoup la coopération surtout dans les jeux, c'est pour ça que souvent j'aime beaucoup les shooters, les...
Ouais, mais c'est vrai que la coop c'est pas mal aussi.
Et la coop est assez sympa, quoi.
Mais ce genre de jeu, enfin moi je trouve que ce genre de jeu perd énormément d'intérêt du moment que tu joues seul contre l'ordi. Que tu joues en coop ou que tu joues en versus, c'est cool, mais dès que tu commences à jouer seul contre l'ordi, c'est... Ouais.
Ouais, c'est de l'entraînement, faut vraiment être un gros fan du jeu, faut vraiment aimer ça à fond. Après, je le comprends parce qu'il est vraiment, on se fait trois parties là comme ça, là, même tout seul, mais tu vas pas t'en faire plus de trois, quoi. Tu vas te faire trois parties, ça t'aura pris, je sais pas, ils font 5 minutes, 10 minutes les parties
sais plus
en tout.
Combien ça fait, ouais. Je crois que c'est 3 minutes par mi-temps, donc ça doit faire 1 minute 5 ou 3 minutes par quart-temps. Je sais plus.
On en a pour 9-12 minutes de...
D'ailleurs, les temps et le mode de jeu, tout ça est réglable au niveau gameplay, donc c'est pas mal. On peut régler la difficulté aussi.
Oui, on peut changer les touches, hein, classiquement. Écouter les musiques, il me semble. Enfin, écouter les musiques du jeu. Enfin bon, des options assez classiques pour l'époque, mais...
L'option, enfin non, c'est pas une option. Le cheat code qui est génial. Ouais, c'est sympa dans le principe, après dans la réalisation, c'est pas forcément au top. Moyennant un petit combo de touches au moment de la sélection du nom du joueur, on peut du coup récupérer certains persos qui n'ont rien à voir avec le monde du basket. Et tu peux jouer avec Bill Clinton... Qui c'est qu'il y avait d'autres, je ne me rappelle plus.
Oh, il y a une dizaine de personnages, mais après les autres sont un peu inconnus du monde occidental. C'est plus des références américaines. Mais voilà, il y a une dizaine de personnages cachés, on va dire. Mais en fait, ce n'est pas vraiment des personnages parce qu'elles prennent la place.
C'est des skins, ouais.
C'est un skin du joueur 2 de l'équipe qu'on va prendre. C'est juste un skin parce qu'il garde exactement les mêmes caractéristiques.
Si, il y a Al Gore, ouais. Clinton et Al Gore, je crois.
Oui, c'est ça. Il y avait ces deux politiques-là, effectivement.
Ouais, c'est vrai que c'est les persos qu'on connaît plus nous ici en Europe.
Et oui, c'est juste des skins. Donc l'intérêt est assez limité, mais c'est drôle parce qu'ils en ont rajouté quelques-uns, quoi.
Ouais, c'est sympa. Et d'ailleurs, sur le jeu, il y a aussi une... comment ça s'appelle ? Alors, c'est une légende, j'ai pas vraiment pu vérifier, mais apparemment, le jeu, sur console, une version du jeu aurait été développée pour Michael Jordan avec son perso jouable dans le jeu. Mais bon, c'est à vérifier quand même.
Ouais.
Mais bon, en même temps, il est assez égocentrique, donc il aurait bien été capable de faire ça.
Oh, c'est carrément possible. Bah, il a joué son propre rôle à côté de Bugs Bunny, hein, donc il est capable de demander un jeu comme ça. Hein.
Bon, en même temps, ça doit pas être trop dur de jouer son propre rôle.
À mon avis, ils ont dû en faire quand même quelques-unes des prises, hein, parce que s'il est aussi bon que Joe Wilfried Tsonga avec Kinder Bueno, ils étaient pas arrivés quand même. Hein.
Ouais, mais je pense que ça doit être à peu près dans le même style.
On a eu la VF, nous, on n'a pas eu la VO. Si ça se trouve, il est mieux doublé que...
que ce qu'il joue vraiment.
Qu'est-ce qu'il joue vraiment.
Tiens, d'ailleurs, je serai bientôt en congé, je vais me retaper ce film en VO. Bon, allez, ça suffit. Les jeux de foot, il fait chaud. Les jeux de basket, c'est pareil. Ça tient chaud, c'est l'été. On va un peu se reposer et passer à quelque chose de moins transpirant.
Moins transpirant, on verra, mais... On va se mettre sur un petit jeu de baston, un petit Tekken sur PlayStation 1. Troisième test, on a fait un petit jeu de versus fighting parce qu'on n'en avait pas encore fait depuis le début du podcast. On avait fait du beat and all, mais on n'avait pas fait du versus fighting. Du coup, on s'est dit, tiens, il nous faut un petit versus fighting. Et plutôt que de sortir un Street Fighter super connu, Street Fighter 2, Mortal Kombat, on s'est dit, tiens, on va les taper un petit peu plus haut que d'habitude parce que ça reste quand même des pixels. Hein, pour,
c'est hein, clair.
Voilà, pour la rétine, ça reste quand même des pixels, on les voit, il n'y a pas de souci. C'est Tekken, le premier, sur PlayStation 1. Alors, Tekken, petit récapitulatif, ça a été développé et édité par Namco. C'est sorti tout d'abord sur bande d'arcade au Japon en décembre 1994. Il n'est sorti que 3 mois après sur PlayStation en mars 1995 au Japon. Et on l'a eu relativement vite pour un jeu par rapport au portage qu'on avait d'habitude, qui prenait des fois plusieurs années. On l'a eu en novembre, pour être précis, le 3 en Europe, le 3 novembre 1995 en Europe et le 8 novembre aux États-Unis.
Ouais, alors c'est pas vraiment un portage, tu vas peut-être nous en parler un peu, parce que la machine d'arcade sur laquelle est sorti le jeu, c'est en gros une Play un peu boostée.
Oui, c'est exactement ça en fait. C'est pour faire des économies et avoir un système de jeu qui déchirait. Alors pour des raisons de puissance et pour des raisons de budget aussi, ils se sont plus ou moins associés avec Sony pour créer leur système qui s'appelle le système 11, qui est en fait grosso modo un pros de Play 1 mais qui est overclocké, on va dire, enfin
ouais,
qui est cadencé plus vite, hein,
ouais, c'est plus propre ça,
qui est plus propre. C'est plus propre effectivement. Il intègre aussi ce pros deux fonctions particulières qui lui permettent d'être un peu en avance, plus fluide, d'avoir un meilleur rendu. Alors je vais vous donner les noms, hein, histoire qu'on rigole un peu. Alors il y a le Geometry Transformation Engine et le Data Decompression Engine, voilà, qui permet du coup d'utiliser la machine avec une meilleure qualité, enfin un meilleur rendu, en tout cas au final, pour l'utilisateur sur l'arcade. C'est le pros graphique de la Play de base qui est utilisé, ça, ils n'y ont pas touché. Et derrière, ils ont juste customisé le pros sonore pour avoir un meilleur rendu son optimisé et tout sur bande d'arcade. Pour ce qui est du jeu, c'est un versus fighting très classique, hein, un contre l'autre. Bon, 3D pour l'époque, hein, c'est ça la grosse nouveauté du jeu.
C'est toute l'époque du début de la 3D.
Et c'est le deuxième jeu de fighting 3D qui arrive sur la PlayStation.
Ah ouais,
le premier étant Toshinden.
Toshinden, ouais.
Et un ancêtre, on pourrait dire, de Soul Calibur,
ah ouais, un
copieur
des sabres,
oui, voilà, chacun avait son armement particulier, faisait des sauts un peu bizarres. Il était pas mal, mais il n'était pas du tout au niveau de Tekken quand même, au niveau fluidité, au niveau contrôle. Bah, Tekken justement a des contrôles un petit peu particuliers comparés à ce qu'on a connu d'habitude. D'habitude, on avait point fort, point faible, pied fort, pied faible.
Oui, la Street Fighter. Quoi.
Voilà, la Street Fighter, par exemple. Et là, non. Là, en fait, chaque bouton, carré, croix, triangle et rond, correspondent chacun à un membre du personnage. La répartition est simple. En fait, les touches carré et triangle sont les coups de poing et gauche et droit. Et les boutons croix et rond sont les coups de pied gauche et droit. Voilà, tout simplement.
Tu es sûr de ton coup là,
ah oui, là je suis sûr de mon coup.
D'accord, ça marche.
Voilà. Après, moi ce que j'aimais bien faire, c'était rajouter, parce que ça ne se servait pas du tout des L et R de la manette de PlayStation, c'était rajouter justement les combos qui servaient à les combos de deux touches, parce qu'au moins on était sûr de les faire en un seul clic, pour les chops. Voilà.
Les attrapes,
si tu préfères.
Les Kalinous.
Les gros Kalinous. Ah, il y avait des... Justement, ça, c'est un des gros points forts du jeu. C'est les Kalinous qu'ils avaient créés dans ce jeu. Ils étaient fantastiques. Les mouvements étaient des fois improbables. Le mouvement de Low qui te monte sur le genou, là, qui fait une retournée acrobatique et qui te met un coup de pied dans la tête, est fantastique. Ils ont bien prévu leur coup. À ce niveau-là, en tout cas, c'était génial. Sur PlayStation, c'est clair que là, quand on a remis le jeu, sur le coup, on a regardé le jeu, on s'est regardé, on a re-regardé le jeu, on s'est re-regardé, c'est un épisode de bref, bon, bref, on s'est fait violer les yeux. Un vrai massacre pour nos rétines, quoi. Presque on a pleuré, là, les trois premières minutes. Hein.
Ouais, c'est clair. Et pourtant, on a des souvenirs de ce jeu comme un truc super beau à l'époque. Ah
bah, on a tous les deux eu la PlayStation quand elle est sortie, à peu près quelques mois plus tard, ou au pire un an.
Ouais, je me rappelle
c'est
plus
un,
rien, mais bon,
c'est un des premiers jeux qui est sorti, qui était énorme, et puis c'était la grande période des Versus Fighting aussi à l'époque. Quand on voit un jeu de Versus Fighting, parce que Toshinden, comme je disais tout à l'heure, on avait pu l'essayer avec la console qui était fournie avec le CD de démo. Donc on avait pu se faire une idée, certes c'était pas mal, mais moi quand j'ai joué à Tekken, j'ai un pote qui m'a ramené Tekken à l'époque, je fais non, ah oui ça c'est plus péchu et tout, oui, ah, par contre c'est réactif, on peut pas lui enlever,
ça va vite,
c'est précis, mais c'est pas beau, voilà, enfin ça a mal vieilli.
Ouais c'est ça, mais c'est que c'est des jeux, quoi. À la limite les jeux sur les consoles plus vieilles, sur les 16-8 bits, on a plus l'occasion, je trouve, d'y rejouer, alors que les jeux 3D, c'est pas forcément le jeu qu'on refoue dans la console souvent, quoi.
Mais la vieille 3D, souvent, a mal vieilli.
Ouais.
C'est ça le problème. Encore jusqu'à l'époque GameCube, l'époque GameCube, PlayStation 2, Xbox, la 3D est quand même assez belle à ce niveau-là. Ouais. Donc,
surtout, là, avec Tekken, on teste un jeu du début de la Play 1. Hein.
Ah oui,
c'est Tekken 1. Il y a eu jusqu'au Tekken 3, je crois, si je ne m'abuse, sur Play 1.
Tekken 3, oui. Sinon, ouais, donc une dizaine de personnages jouables. La grosse différence avec la version arcade, c'est que là, tous les personnages sur la PlayStation sont débloquables. Alors que sur arcade, on peut jouer qu'avec les persos de base. Ça ne débloque pas ce qu'on appelle les boss. Qui sont des fois les reskins de persos existants comme l'ours Kuma qui est en fait Jack mais déguisé en ours. Peut-être un petit peu plus vif ou avec un petit peu plus de portée, mais c'est exactement les mêmes coups. Et après on a comme boss de fin Ehashi Mishima, le bon gros vieux chauve avec ses cornes de gazelle en guise de cheveux blancs. Ah mais qui par contre, il est pas gentil le papy, hein. Oh putain, ce qu'il nous a mis dans la gueule.
Ouais, ouais. Mais le chara-design, je pense que pour l'époque, il était assez poussé. Mais au final, je trouve que tous les persos sont... Enfin, ils ont leur identité, mais quand tu rebootes là, le jeu maintenant, je trouve que c'est un petit peu dégueulasse quand même.
Ah oui. Mais surtout, moi, comme j'avais pas fait le rapprochement à l'époque, et c'est en retestant ensemble là, que je t'ai fait la remarque, Paul... Et Kazuya, c'est Ken et Ryu. Hein. Il y en a un, ils se battent tous les deux dans un style de karaté plus ou moins aérien, surtout, Kazuya. Kazuya ou Kazuma, je ne sais plus. Kazuma, Kazuya, je confonds avec la série Yakuza sur de Sega. Et Kazuma, c'est un clone à peine caché de Ryu qui fait un coup en forme de Dragon Punch, qui a son coup sauté ou bas, où il tourne sur lui-même avec et qui donne des coups de pied. Qui fait penser à la tornade de Ryu et Ken aussi. Le personnage de Paul, comme je l'ai dit, est inspiré de Ken parce que la coupe blonde, le kimono rouge dans son autre dans son merde,
là,
ah oui,
je peux pas l'aider
dans son costume alternatif. Parce que chaque personnage a un costume alternatif, là c'est pas juste un changement de couleur du costume. Si ce n'est ces deux persos, les autres après sont très justement sont assez bien travaillés, sont originaux. La petite indienne, le robot Jack. Qu'est-ce qu'on a ? On a Yoshimitsu, l'espèce de ninja japonais. On ne sait pas bien si c'est un ninja dessous, si c'est un robot.
Ouais. C'est un peu moins typé japonais que...
Ah, quand même les personnages principaux, selon l'histoire, sont Kazuma et Hashimishima.
Ouais, mais l'histoire, on en parlera
père
pas.
Père et fils, on n'en parlera pas parce qu'elle est bateau, elle sert à rien et tout le monde s'en fout. Hein. Soyons clairs, tout le monde s'en fout.
Enfin, nous, en tout cas, quand on a testé, on s'en foutait.
Oui. Et elle n'est expliquée nulle part, si on veut le savoir, l'histoire. Moi, j'ai vu
sur Wikipédia.
Voilà, j'ai vu qu'il y avait une histoire sur Wikipédia, sinon je savais même pas qu'il y avait une histoire à ce jeu.
C'était peut-être évoqué dans le livret.
Oui, mais qui lisait le livret à part pour connaître les coups spéciaux?
Voilà.
Après, les coups spéciaux, oui, sont différents d'un Street Fighter parce que c'est plutôt des deux fois avant, point pied-pied, par exemple, des baron plus triangle après enchaîné pour faire un coup balayette plus coup de coude avec Paul, par exemple, qui demande un certain timing, une certaine habitude. Je vois, celui-là, j'arrivais à le refaire, et un autre basé sur deux coups de poing, j'ai jamais réussi à sortir l'enchaînement du premier coup de poing. Par contre, tous les autres coups sont revenus assez facilement. Le niveau de difficulté de l'IA, on en parle un peu ?
Ouais, bah vas-y, parce que tu l'as beaucoup plus testé que moi.
C'est vrai que j'ai essayé d'un peu plus le doser, mais c'est plutôt l'IA qui m'a dosé la gueule, hein, faut être clair. Alors, l'IA, alors, soit elle est complètement inexistante, vous gagnez un round presque comme qui rigole, elle vous met un coup de poing histoire de dire voilà. Soit c'est presque de l'anti-jeu, elle vous sort que des contres quasiment incontrables aussi.
Ouais, elle vous tape au sol.
Elle vous tape au sol, mais alors. C'est la farandole des coups de pied, quoi. Hein. On en prend de tous les côtés. Donc, des fois, on a joué technique, on lui enlève les trois quarts de sa vie. Et là, l'IA se met à jouer, mais alors sale. C'est sale. Moi, je trouve que c'est sale de jouer comme ça. Là. Vous envoie péter en l'air une fois, vous retouche en l'air, vous fait tomber, vous tape deux ou trois fois au sol ou au moment où vous vous relevez. Et il vous reste 5% de votre vie, quoi. Elle a retourné en un combo... C'est un peu trop... Moi, je trouvais ça sale comme système de jeu. Fallait jouer un peu technique, sinon c'est pas drôle de se taper au sol. C'est presque... Après, c'est de l'anti-jeu, quoi.
Ouais.
C'est de l'anti-jeu. Du coup, le jeu était quand même beaucoup plus sympa à se faire en versus fighting.
Ouais. Chose qu'on n'a pas pu faire parce que malheureusement, on n'avait qu'une seule manette.
Ouais, pas de manette 2, donc voilà. Moi, pour y avoir beaucoup joué à l'époque, et surtout beaucoup de versus fighting, il est beaucoup plus intéressant en versus fighting... grâce à l'humain, parce que l'humain, si l'humain, justement, il vous fait que de l'anti-jeu, vous jouez avec un autre humain, au pire, vous changez de collègue, c'est pas grave. Hein.
Ouais, c'est beaucoup plus fun, ouais.
C'est quand même beaucoup plus fun, on peut s'entraîner, on peut se donner des conseils, on peut faire des vraies soirées tournois, c'est assez drôle.
Bon, allez, je vais faire le résumé. Du coup, bon jeu de baston, mais bon.
Mais qui a
fait mal
même...
aux yeux, a mal vieilli.
Ah ouais, il a mal vieilli après. Les bases sont bonnes, les bases du Tekken sont bonnes. Moi, après, je suis pas un grand fan de Tekken. J'ai joué beaucoup à l'époque parce qu'il y avait, c'était le jeu du moment. Mais moi, je suis plus un fan de la maniabilité Street Fighter. Donc, c'est revenu, mais je me suis pas régalé plus que ça, quoi.
Et moi, pour être honnête, j'ai préféré préparer le matos de l'émission plutôt que de de jouer, en gros.
Donc si vous êtes vraiment fan de la série Tekken, vous pouvez aller voir ses origines. Les coups de base sont les mêmes que d'habitude, donc vous ne serez pas déstabilisé. Vous ne serez absolument pas déstabilisé. Mais sinon,
vaut mieux préférer, même sur PlayStation 1, un Tekken 3.
Ah oui, qui sera déjà premièrement beaucoup plus beau, beaucoup plus fluide.
Moins archéologique.
Bon, sur ce, on va parler de ce petit Oddworld en cross-test.
Ouais, cet Oddworld en test multiplateforme. Face à face des générations, on a choisi Oddworld, l'Odyssée d'Abe, que j'ai testé péniblement sur PSX, et dont Buzz a testé la version remasterisée nommée...
Oh là, j'ai même un doute. Ah oui, si, ça y est, c'est Oddworld New and Tasty.
Ah ouais, parce que moi je me rappelle chaque fois de Big Tasty, mais ça n'a rien à voir.
Ouais.
C'est un jeu de clown.
Alors moi je l'ai testé sur PC, une édition Steam.
On va faire un petit peu l'histoire du jeu. Alors, Oddworld a vu son développement débuter en 95 et est sorti en fin 97 simultanément sur PSX, DOS et Windows. Alors j'ai appris d'ailleurs que à l'époque sur PC il y avait deux versions différentes, une version Windows et une version DOS.
Ah tu vois, mais je n'étais pas au courant.
Ouais. Le jeu a été développé par Oddworld Inhabitants. Ouais, c'est pas mal, ils ont vraiment
Ils étaient à fond dans leur concept.
Ouais, dans leur concept, et a été publié par GT Interactive. Alors l'histoire du jeu, dans le jeu on incarne Abe, un mudokon ouvrier surexploité,
esclave
dans une usine de bouffe tenue par des grosses bébêtes bizarres qui ont pas l'air très sympas. Et il découvre en traînant l'oreille que la prochaine recette phare de la marque va être composée pour l'essentiel de mudokon, de tous ses potes qui aident, qui sont esclaves dans l'usine.
Dans l'usine, qui font la production, ils vont se servir des esclaves pour
faire la matière première. Donc notre petit mudokon se donne comme mission à partir de là, en premier lieu de s'échapper et d'aider tous les esclaves de l'usine à s'échapper. Au niveau gameplay, alors ce jeu est... on va résumer, on va le mettre dans une catégorie, c'est un 2D platformer.
Ouais, c'est comme ça qu'on peut le classer.
Je pense.
Ouais.
Alors... Par contre, ce jeu apporte aux 2D platformers qu'on avait plus l'habitude de voir sur les 16 bits, apporte tout un rendu de l'environnement et des personnages 3D. Donc, ce qui fait que, bien que ça soit un 2D platformer, on a une réelle impression de 3D. En plus, on a assez souvent des scènes des plans sur deux plans de profondeur différents. Donc ça tranche un peu avec le platformer 2D traditionnel 16 bits.
Ouais, sur 16 bits, on avait dans des choses qui pourraient ressembler, parce que là, c'est un platformer énigme, on va dire. C'est pas un platformer style Mario.
Je vais y venir.
C'est dans la veine un petit peu des Lost Vikings, de choses comme ça, là, qui sont plus puzzle, mais que c'est de la 2D, plateforme aussi, parce qu'il faut bien déplacer son personnage.
Oui, c'est ça. Donc, toute la nouveauté et la difficulté du jeu, c'est qu'en fait, ce platformer, c'est un jeu d'énigmes. Le personnage qu'on incarne, doit éviter des ennemis qui lui chutent dessus, des pièges. En fait, en gros, tout l'environnement peut vous tuer.
Ah oui, tout à fait.
Tout vous tue. Dans ce jeu, on se déplace de tableau en tableau, sans savoir ce qui va nous arriver sur la gueule, en gros, vu que tout est austère et tout est négatif. Dans le gameplay de ce jeu, on incarne donc Abe, notre petit Mudokon à la bouche, j'adore ce nom, Mudokon, à la bouche cousue. Et on se déplace, c'est pas un scrolling régulier comme dans un Mario ou un Sonic, c'est un scrolling par, on va dire par tableau. Donc on a pas de visibilité sur le tableau d'après, et il y a pas mal de tableaux de transition, où au final il y a rien à faire pour certains. Et donc le but c'est de se déplacer de tableau en tableau, où il y a des énigmes, des énigmes. Alors le genre d'énigme c'est ouvrir une trappe pour que le garde tombe, ça peut être se cacher dans le noir, ça peut être ramper pendant qu'un garde dort, pour pouvoir arriver du coup à récupérer nos amis esclaves Mudokon, que l'on appelle d'ailleurs, alors on leur parle, il y a je sais plus combien, il y a 4 ou 5...
4 ordres,
il y a 4 ordres, oui, c'est
bonjour
sûr.
Pour les appeler si je me souviens bien,
ouais.
Suis-moi. Suivez-moi et
non suivez-moi
ah non suivez-moi c'est dans le mien oui
c'est dans
vrai.
Le tien
et arrêtez-vous
play, non. Et arrêtez-vous voilà
et arrêtez-vous voilà
et donc tout le but bah, c'est d'éviter les pièges les gardes et de faire s'échapper les Mudokon. Alors pour les faire s'échapper en général ça se passe sur un tableau une zone assez safe où il suffit que Abe entonne une petite chanson et ce qui ouvre un passage temporel, interdimensionnel, je ne sais pas trop,
oui.
Et qui permet aux Mudokon qui vous accompagnent de s'échapper. A savoir que dans la version Play, un seul Mudokon peut nous suivre, alors que c'est différent, je crois, dans la version PC.
Ah ouais, bah dans la version PC, moi déjà, du coup, comme je le disais tout à l'heure, j'ai un ordre de plus qui est suivez-moi tous.
Voilà.
J'ai bonjour à tous quand il y a plusieurs
Mudokon
qui sont les uns à côté des autres. Parce que la chose qu'il faut préciser, c'est que du coup, ce n'est pas qu'un simple portage. Ils ont refait carrément tout le moteur graphique. Les tableaux sont différents. Un petit peu différents. C'est la même base, mais ils l'ont arrangé à la sauce 2000. 2016, il est sorti cette année
Ah non, peut-être pas.
Voilà, c'était l'année.
Mais
de...
je l'ai pas dans les notes, moi, la version PC, la sortie.
Je ne sais plus, je ne l'ai pas noté non plus. Bon, donc.
Allez voir sur Steam, c'est marqué.
Voilà, c'est marqué sur Steam ou ailleurs d'ailleurs. Donc, j'ai plus d'ordres. Donc, je peux les faire tous me suivre en même temps, tous s'arrêter en même temps. Donc, quand j'arrive dans le niveau qui fait s'échapper les Mudokon, ils peuvent tous s'échapper d'un coup. Ça évite énormément d'aller-retour. L'autre grosse chose, donc grosse refonte graphique, le jeu est magnifique. C'est de la... Maintenant, c'est ce qu'on appelle de la 2D et demi.
Ouais,
là,
voilà,
c'est un jeu fait tout en 3D, mais avec une vision 2D. Et là, par contre, bah, c'est super beau.
Ouais, c'est
C'est pas surchargé, mais la 3D est super belle, hein, suffisante. Ça bouge bien. Toujours autant d'humour, parce qu'on passe son temps à mourir, comme on vous disait dans ce jeu. Mais voilà, c'est...
Oui, il y a pas mal d'humour.
Souvent, un garde, par exemple, quand il vient de vous tirer dessus, rigole après.
Ouais.
Voilà, il se moque de votre mort, clairement. Des fois, c'est parce qu'on a couru un petit peu trop, il y avait un trou, on a oublié d'appuyer sur le bouton de saut ou on l'a fait trop tard, on tombe dans le trou, on tombe de 3 étages, donc forcément, on meurt. Ce petit côté vraiment rétro du ceux qui ont connu le premier Prince of Persia, sous DOS par exemple, voilà, où on passe d'un endroit à l'autre, il faut comprendre comment passer sans, en passant les pièges, c'est un peu ce principe-là, mais en plus avec une idée de sauver ses compatriotes de la mort et d'une mort atroce en plus.
Oui, et puis il n'y a pas que le côté énigme avec les leviers à actionner, les choses comme ça. Il y a tout aussi un côté difficulté en termes de timing, de timing dans les mouvements du personnage et tout ça.
Ça, parce qu'il faut bien...
Il demande pas mal de dextérité à la manette.
Il faut bien connaître le niveau par cœur, connaître son énigme par cœur pour pouvoir la passer, pour apprendre celle d'après, etc. Alors, des fois, elles se font vite. Des fois, elles sont plus compliquées. Souvent, elles sont plus compliquées, d'ailleurs.
Oui, puis en plus, le jeu, je dirais pas regorge, mais dispose de pas mal de passages secrets.
Oui.
Parce qu'en fait, on peut finir le jeu en ne sauvant qu'une vingtaine de Mudokons, je
oui.
crois.
Et sinon...
Et, mais il y en a, du coup, 99...
99 sur PlayStation. Et 299, c'est la grosse nouveauté aussi dans le New and Tasty. C'est qu'ils ont rajouté 200 Mudokons en plus, donc quelques passages secrets en plus, où au lieu d'avoir un seul Mudokon là où il y a sur PlayStation, là, vous avez un pack de 8
ouais.
en fait. Donc,
ouais, mais ça vient du. Ils ont pu aussi se permettre ça, vu qu'il y a les ordres pour les appeler.
Oui, ils l'ont créé, et puis c'était pour créer de la nouveauté. Ils
ouais.
pouvaient se le permettre techniquement, parce que le... Dans le deuxième, ça l'était fait, mais peut-être qu'ils n'avaient pas encore réussi à le développer à l'époque, quand
ouais.
Où ils n'y avaient pas pensé, tout simplement.
Peut-être.
C'est peut-être quelque chose qu'on leur a demandé, qu'ils ont eu en retour, de faire ces ordres communs, du
ouais.
coup, que c'est pas plus compliqué, la manette a suffisamment de boutons pour faire des combinaisons,
oui.
Parce que la combinaison est... part sur un des boutons L et R, en fait, appuyé, et après on appuie sur la croix directionnelle pour donner un ordre.
Ou pour péter,
effectivement. Ou pour siffler.
Ou
mais
pour
péter, c'est plus drôle.
Ouais, ouais, ça fait partie de l'humour du jeu qui est,
voilà.
qui est un peu caca quand même, un peu craquant.
Et ça fait rire Abe. Ça fait rire ses congénères
ouais.
quand ses congénères le suivent. C'est très drôle. Parce que des fois, souvent, on se trompe d'ordre et au lieu de leur dire suivez-moi, eh ben, on fait péter le Abe.
Ouais.
Ça Alors, casse un peu le rythme, mais c'est très drôle.
Je sais que c'est pas le sujet, mais dans la version 2, on peut aussi frapper ses congénères. Et du coup, quand on se trompe de boutons, ça amène à des scènes assez sympas.
Oui, c'est rigolo de se faire frapper pour rien.
Ouais, et bon, enfin, du coup, ce jeu, pour être honnête, c'est un jeu qui, moi, à sa sortie, ou quand j'y ai joué sur PSX, m'avait vraiment régalé. Et là, quand je l'ai repris en main, alors je sais pas si c'est l'âge qui fait ça ou... Mais j'ai trouvé que c'était déjà une des critiques majeures du jeu, c'est son niveau de difficulté et sa courbe d'apprentissage qui est raide qu'elle en peut plus. C'était déjà une critique à l'époque, mais alors là à refaire sur Play maintenant, j'ai vraiment trouvé le jeu bien trop dur. Je l'ai absolument pas fini, je sais même pas à quel pourcentage du jeu j'en suis, mais je me suis un petit peu amusé au début, mais il m'a vite exaspéré. Enfin, surtout les épreuves où c'est le timing, le maniement qui importe, ouais, ça m'a saoulé. J'avais pas assez de...
Oui, parce qu'il faut ce qu'il faut préciser. Oui, parce qu'il... attends. Salope.
Tiens, le temps qui s'étouffe, je vais dire juste que d'un point de vue graphique, tout à l'heure on parlait de Tekken qui avait super mal vieilli. Abe a vieilli, mais ça reste quand même un jeu qui graphiquement est pas écœurant, quoi. Ça pète pas un œil, mais c'est pas mal du tout.
Ah oui, non, celui-là, comparé à un Tekken, est beaucoup plus beau,
oui.
beaucoup plus réussi. J'étais même surpris de voir... Je pensais que ça serait moins beau que ça, tu vois. Dans mon souvenir,
ouais.
c'était... Le jeu était beau, mais je pensais qu'il avait beaucoup plus mal vieilli que
non,
ça.
Non, il a assez bien vieilli. Bon, allez, on peut reprendre où t'en étais avant que
voilà,
tu t'étouffes.
Voilà, oui, je voulais dire qu'au niveau maniabilité, Abe, en fait, vous donnez un appui droite, il avance d'une...
De trois pas,
et vous ne pouvez pas faire autrement. C'est-à-dire
ouais.
que vous ne pouvez pas... Enfin, après, en avançant à pas feutrer, là, en se mettant sur la pointe des pieds, vous pouvez faire de plus petites distances, mais par contre, un appui simple vous fait avancer d'une quantité de pas définie. Donc, des fois, pour s'arrêter, quand vous avez un garde qui
s'arrêter.
Vous court derrière et que trouver le bon timing, le bon moment pour savoir quand le lâcher, parce qu'il a une inertie aussi après
ouais.
quand il court pour s'arrêter. S'arrêter au bon endroit, pile au bon endroit, est très difficile.
Mais ouais, c'est ce côté, c'est ça là, cette maniabilité un petit peu compliquée, moi, plus que les énigmes et les puzzles qui m'ont un peu lassé, et puis c'est trop Dying Retry pour ce que j'aime faire maintenant.
Oui,
et de toute manière, Buzz a été encore moins courageux que moi sur le test de la version PC.
Ah oui, je suis allé, on a joué ensemble sur la version PlayStation, j'ai joué de mon côté sur la version PC. Sur la version PC, j'ai dû jouer la moitié de ce qu'on a fait sur la Play. Parce qu'au bout d'un moment, en fait, je trouve que c'est un jeu, c'est le genre de jeu qui se joue à plusieurs. Jouer seul, c'est sympa, mais quand tu commences à buter sur une énigme,
sur
l'autre,
un passage
tu passes la manette à l'autre. L'autre, tu vas pouvoir te moquer de lui parce qu'il va faire au moins aussi mal que toi. Soit il va réussir à passer le truc parce que lui a trouvé le bon timing, donc il va te passer 2-3 tableaux, hop. Puis après, c'est lui qui va bloquer, donc toi, tu vas peut-être mieux anticiper parce que tu as découvert un truc entre-temps, machin. Et du coup, tu te repasses la manette. C'est un peu comme un jeu de course où, de temps en temps, il y a une course qui te plaît pas, un circuit qui te plaît pas, tu le passes à ton pote te le passe. Et ton pote, il est pas bon sur l'autre, donc toi, tu fais l'autre à sa place, machin.
Moi, je sais que le peu de temps que j'y ai joué seul, ça m'est encore plus tombé des mains qu'avec toi. En fait, en gros, la grosse section qu'on a fait, là, c'est quand on a joué tous les deux. Parce que sinon, après la journée de boulot, là, moi, j'ai trouvé que c'était un peu stressant comme
oui,
jeu.
Oui, le temps du réapprentissage de cette maniabilité qui est... Après, elle est précise.
C'est précis.
Mais elle est très exigeante.
L'animation est magnifique.
Oui,
dire.
Les animations sont fantastiques, oui.
Ouais. D'ailleurs, je pense qu'ils ont peut-être un peu sacrifié à la maniabilité pour avoir des animations toujours... Tu sais, le petit pas de plus qu'il te fait, les choses comme ça, c'est vraiment pour finir l'animation et c'est peut-être à mon goût un peu au détriment du gameplay.
Mais je pense que c'est fait pour faire la difficulté aussi
ouais.
Parce qu'ils auraient pu faire des arrêts plus marqués, quoi, plus habituels, comme un Mario où peine t'appuies et t'arrêtes d'appuyer, il s'arrête, quoi.
Ou tu as certains jeux, j'ai pas d'idée en tête, mais où tu as une animation d'arrêt brutal. Tu sais, en pleine course ou les trucs comme ça, et il va pas ce genre de truc. Il court, il finit son mouvement. Quand tu cours, en plus, il finit en général à peu près sur une pseudo-glissade là, de quelques trucs. Donc,
c'est comme s'il faisait un espèce de petit dérapage contrôlé avec les pieds.
Et là, quand tu as un moment, là, tu cours, puis tu te dis, putain, merde, je suis allé un peu trop loin. Tu essaies de mettre dans l'autre sens, là. Tu te dis, allez, changement de jambe, là, pim-pam-poum. Et là, jamais ça marche. Tu te fais toujours buter.
Et ben là, soit il y a un chien enragé qui vient vous bouffer, soit il y a un des gardes un peu bizarre d'ailleurs, le design des gardes, mais très sympa là.
Ouais.
Espèce d'araignée.
Je sais pas
où
est-ce que c'est.
C'est bizarre là, d'araignée, hyène, chien, mais à moitié mécanisé. C'est bizarre.
Avec leur rire salace.
Et une espèce de langue de tapir là qui sort devant là.
Le chara-design est génial quoi.
Ah oui.
À ce niveau-là, ils se sont vraiment lâchés et c'est. C'est super joli. Et puis c'est inspiré quoi.
C'est vraiment un monde à part. C'était une belle originalité au niveau création de monde, au niveau DA pour l'époque.
Ah non, c'est vraiment magnifique.
Et c'est un jeu du coup qui a plu, qui a plu beaucoup aux femmes aussi, aux filles,
aux
femmes.
C'est vrai
que
moi j'y jouais avec ma copine à l'époque.
Et puis un jeu comme c'était un jeu d'énigmes, tout ça, ça faisait penser un peu à des flashbacks, des trucs comme ça. Et du coup, il y a cette communauté qui est venue dessus, qui a foncé dessus, qui aimait ce genre de jeu. Mais c'est le genre de jeu aussi que les plus vieux, même si c'était pas trop l'époque des gamers vieux, des papas gamers, il y en avait un peu, mais pas tant que ça.
Il y avait moins que ça, ouais.
Mais du coup, ça les intéressait parce que c'était plus de la réflexion, de la finesse qu'un versus fighting. Street Fighter 2 ne les intéressait absolument pas, nos parents en général.
C'est un jeu qui était destiné à toute cette nouvelle tranche de gamers. Qui étaient les jeunes actifs gaming quoi. On n'était plus qu'à l'étudiant au lycéen au collégien qui jouait ou au petit gamin, mais on avait ne serait-ce que par l'humour aussi. C'est un genre d'humour et tout qu'on voyait rarement sur console.
Oui,
à
c'était
l'époque.
Plus lié à des point and click PC. des point and click PC, ce genre de choses comme du Sam & Max, du Day of the Tentacle, ce genre de choses, quoi, où il y avait de l'humour un peu potache, comme ça, dedans. C'était plus réservé, à l'univers des PCistes.
Ouais, plus qu'aux consoleux. Bon, je pense que c'est assez. Donc, allez, en verdict, si vous avez envie de... Si vous aimez les puzzles, que vous aimez vous déchirer les doigts sur votre manette de play...
Ouais, vous déchirez le cerveau parce qu'il est super exigeant, mais si vous aimez les jeux exigeants, en fait... Juste préciser que la version PC n'est pas tout à fait la même. Il y a quelques variations dans les décors. Genre, au lieu d'être dans l'ombre, on est dans la fumée à certains moments. Voilà, mais sinon, la maniabilité est exactement la même. Et du coup, il est beaucoup plus beau. Donc, si vous aimez le concept, mais que vous n'êtes pas rétro gaming, vous pouvez vous prendre sans souci la version PC. Alors que nous avons eu sur un site de clé, je crois. pour pas très cher.
Ouais, oui, d'ailleurs. Ouais, d'ailleurs, oui. Ça nous arrivait de temps en temps, vu que le podcast n'est pas très riche, d'utiliser des sites d'achat de clés, comme, bon, on va les citer, G2A,
on va en citer au moins deux ou trois, voilà, Instant Gaming, ce genre de choses.
Voilà, sans savoir vraiment le comment, le pourquoi et la manière dont ils obtenaient des clés, on s'occupait surtout de rentrer dans notre budget jeu et,
voilà,
et ça s'arrêtait à peu près là. Et là, ces derniers temps, je pense que vous avez dû entendre parler des petits problèmes qu'ont ces sites sur la légalité et les manières dont ils
revendent les clés, parce qu'ils en sont normalement pas propriétaires.
Voilà. Enfin, voilà, ils sont pas propriétaires, mais les personnes qui vendent sur ces sites sont, pour certains, assez douteux. Donc, on a décidé de, pendant quelques temps, du moins,
voir l'évolution,
voir l'évolution du truc et de plus acheter de clés sur
des sites de clés. Les soldes Steam sont très bien.
Voilà.
Ça fait la même chose. Il suffit d'attendre un peu.
Puis ça ferait moins de jeux qu'on peut pas tester comme ça.
Voilà. Pour en finir avec les tests pour ce mois-ci, on va faire comme d'habitude un petit jeu indé. Et on a changé d'avis entre-temps. On avait commencé sur un jeu indé particulier, et puis moi entre-temps j'en ai acheté un autre. Je lui ai montré à mon ami Laz, et on a fait « Ah non, en fait c'est celui-là qu'on va mettre dans le podcast, parce que il est vraiment trop sympa quoi. » Alors ce jeu c'est One Finger Death Punch.
Il l'a dit.
Et je l'ai dit, je me suis pas trompé. Bah c'est normal parce que c'est écrit devant moi, parce que sinon je me serais encore trompé, je pense. Le principe est très simple. Vous avez un bouton à gauche de la manette, un bouton à droite de la manette, et c'est tout. Voilà. Pas besoin de donner de direction. C'est juste un jeu de réflexe.
Ça marche aussi avec les boutons de la souris.
Ça marche aussi. À la base, c'est sorti avec les boutons de la souris, effectivement. Donc clic gauche, clic droit. Ce jeu est basé sur un jeu de réflexe, en fait, c'est un jeu de réflexe et de timing. Vous incarnez un maître en kung-fu. Alors, incarner, c'est un bien grand mot, parce que il faut savoir que graphiquement, le jeu est très beau, les fonds sont très beaux, les petites animations sont magnifiques, tout ça. Mais par contre, les personnages, et ça a bien été spécifié par l'équipe, qu'ils ont préféré s'atteler au gameplay plus qu'au graphisme du jeu, les personnages sont en style fil de fer. Un peu comme, si vous vous souvenez, si vous aviez vu ça à l'époque, il y a quelques années, des petites animations de Xiao Xiao, qui étaient des bastons de kung-fu, de bonhommes en fil de fer, en animation. C'était assez rigolo. Et ben là, je pense que quelqu'un de la team de Silver Dollar Game, qui a développé ce jeu, d'ailleurs, je vais y revenir après. Ils ont dû regarder ces vidéos, ils ont dû un jour, il y en a un qui a dû faire, bah tiens, on va faire le jeu de cette vidéo. C'est très inspiré. Pour revenir donc du coup à Silver Dollar Game, le développeur et éditeur du jeu, je n'ai absolument rien à vous dire dessus, parce que très bizarrement, je n'ai trouvé, mais alors absolument aucune information sur ce studio en traînant sur internet. J'ai fini par aller sur leur site officiel qui est plus qu'anecdotique, c'est-à-dire que je pensais même plus que ça existait à notre époque. Ça ressemble à une feuille Word en fait, où il y a 6 lignes dessus, un lien Twitter, un lien Facebook, hein, et un lien pour les contacter par mail. Donc je les ai contactés par mail, je leur ai envoyé un mail en leur demandant s'ils pouvaient gentiment nous envoyer un petit résumé de leur entreprise, un petit historique, quoi, un peu savoir quand est-ce qu'il a été créé, tout ça, et il était composé de combien de personnes. Je n'ai malheureusement pas eu de réponse de la part
de la team.
De la team, merci, j'étais en en perte totale. Donc, bah, je ne pourrais pas vous en dire plus dessus. Je suis désolé. Et ça me désole aussi parce que leur jeu me plaît beaucoup. Et du coup, j'aurais bien aimé en savoir un peu plus sur eux. Alors après, juste pour trois petites précisions sur le jeu, c'est que le jeu, il est sorti sur PC à la base et un peu avant sur Android et iOS en mars 2014. C'est pas un jeu très récent. Et il a été aussi disponible, avant d'être disponible sur PC, via la plateforme Steam et la plateforme Desura, qui est spécialisée dans les jeux indés, que vous connaissez sûrement. Il était sorti aussi sur le Xbox Live de la 360 et ne coûtait qu'un euro. Enfin, l'équivalent d'un euro, vu que c'était en points.
Ouais.
Mais coûtait l'équivalent d'un euro. Il coûte 5 euros sur Steam. Mm-hmm. Il était à 2,50€ pendant les dernières soldes. Du coup, toi, t'en as profité, tu te l'es pris.
Bah ouais, parce que ce jeu, au final, il est sacrément cool.
Alors, il est très addictif. Donc, comme je vous disais, vous incarnez un petit bonhomme blanc, maître de kung-fu. Et sur votre gauche et sur votre droite, des ennemis vont apparaître, donc il va falloir les tataner façon le jeu QTE. QTE Kung-Fu, quand ils sont à la bonne distance, hop, vous appuyez sur le côté de la direction d'où ils viennent, enfin sur le bouton qui correspond. Alors les ennemis, il y en a de plusieurs sortes, les simples où il faut juste leur donner un coup pour les tuer, hein, ouais. Disons, voilà, les mettre KO. Après, d'autres ennemis commencent à apparaître, tels que les ennemis spéciaux qui demandent une certaine séquence de QTE qui est aléatoire à chaque fois. On ne sait pas sur quelle séquence de QTE on va tomber dessus. Après, il y a des ennemis qui demandent 2 coups, des ennemis qui demandent 3 coups, des ennemis qui demandent 4 coups. Et justement, dans ces ennemis, après qui demandent plusieurs coups, il y a une alternance qui peut se créer. C'est pas forcément 4 coups à droite pour tuer un ennemi qui a 4 coups à faire. Ça sera 2 coups à droite et 2 coups à gauche. Et du coup, il faudra enchaîner tous ces ennemis qui vous arrivent au fur et à mesure sur vous. Pour vous aider, vous aurez à disposition des armes que les ennemis qui arriveront avec vous laisseront au sol, que vous récupérerez, qui vous aideront soit à obtenir de la longe, telles que les épées, les masses, la lance.
Le ballon aussi.
Le ballon, oui, le ballon est un. J'allais en parler après parce que c'est un objet un peu particulier. C'est une arme particulière.
Ouais, mais comme tu parlais de voilà. Donner de la longe.
Ouais. Ah, oui, ça, c'est vraiment la longe ultime.
Ouais.
Après, nous avons les armes de jet. Donc, nous pouvons disposer de dagues, de flèches et de. Comment ça s'appelle ? Et de bombes qui font celles-ci, par contre, des one-shot. Donc ça, c'est aussi la longe ultime, vu que vous pouvez l'envoyer carrément à l'autre bout du niveau dès que vous voyez apparaître un ennemi, même s'il n'est pas dans la zone de contact habituelle, on va dire.
Ouais, puis ça one-kill tous les ennemis, enfin, en tout cas
voilà,
le ballon.
Les spéciaux, ouais. Les... Ouais. Ah non, mais pas les ballons, rien que les autres armes conventionnelles. Ouais. Et le ballon a le même effet, du coup, que les armes de jet, mais par contre, revient, en fait, rebondit sur l'adversaire et revient vers vous. Donc en fait, il faut que vous redonniez un coup avec le bon timing tant qu'il est devant vous pour le faire repartir sur un ennemi. Et tant que vous tuez des ennemis et que vous avez le bon timing, vous gardez le ballon.
Et les spéciaux comme ça apparaissent, si je ne me trompe pas, chaque temps d'ennemis éliminés ou...
Enfin, ils apparaissent très régulièrement, même des fois apparaissent au fur et à mesure qu'on augmente en difficulté dans le mode campagne, parce qu'il y a un mode campagne et un mode survival dans le jeu. Dans le mode campagne, les ennemis apparaissent, oui, au début assez rarement, les spéciaux, et puis plus ça va, plus ils apparaissent régulièrement, et plus leur QTE peut se compliquer aussi, peut devenir très long. Des fois, un QTE, ouais, 4-6 appuis suffisent.
Les QTE ne sont pas compliqués, je trouve. La difficulté, c'est surtout la longueur, non, moi, de ce que j'ai joué.
Oui, et il faut bien préciser quelque chose, que c'est qu'un jeu qui demande de la précision, qui est vraiment sur la précision, le rythme, il n'est pas fait pour mâcher. Il ne faut pas mâcher le bouton, sinon vous êtes sûr de perdre. Parce que quand vous mâchez le bouton, si vous vous ratez, vous faites un miss. Vous restez très légèrement bloqué dans votre animation de coup. Du coup, les autres, les ennemis qui étaient autour de vous, si vous étiez un petit peu limite, un peu tendu, qu'il y avait beaucoup de monde, vont avoir le temps de vous taper. La plupart du temps, vous avez dans les niveaux traditionnels une barre de vie qui est composée de 10 points de vie. Donc vous pouvez vous faire taper 10 fois avant de mourir. Certains niveaux sont particuliers, vous donnent que 5 points de vie, voire un seul point de vie pour certains. C'est la perfection obligée en fait, pour [S2] Ouais. [S1] Passer le niveau.
Mais il y a énormément de niveaux d'ailleurs.
Il y a énormément de niveaux, il y a plus de 300 niveaux.
D'ailleurs, on l'a pas dit, mais le but en fait de chaque niveau, c'est de tuer un nombre. Enfin, pour les niveaux traditionnels, de tuer un nombre défini d'ennemis.
D'ennemis qui arrivent, oui, genre.
Genre, tu commences, je sais plus à combien, mais bon.
C'est ça... à 50, on commence à 50 ennemis, et puis progressivement, à force de faire la campagne, qui est une espèce de grande map où on voit au fur et à mesure les.
Très moche.
La map est moche, par contre, ça, oui.
Alors, le jeu est super joli, les animations sont magnifiques, tout, mais la map, on dirait qu'elle est sortie d'une vieille console 16 bits.
Presque 8.
Et mal dessinée.
Oui. Après, ça enlève rien au fun du jeu, justement,
non,
parce qu'on
pas.
Y passe... On y
c'est
passe
assez marrant, en fait. Oui, on n'y passe pas de la map, on passe d'un niveau à l'autre, il n'y a,
oui.
aucun, y a pas vraiment d'intérêt.
À chaque écran de chargement, même si le... Enfin, c'est pas un écran de chargement, c'est à la fin du niveau, on a toujours son score, etc., savoir si on a fait des misses, si on a raté des coups, parce qu'il y a deux manières, enfin il y a plusieurs manières de terminer le niveau. Terminer le niveau simplement en se faisant toucher, en se ratant, qui va donner une médaille suivant le nombre de fois où on s'est raté. Si on s'est raté 0 fois, on a la médaille Platinum. Et après, on peut, sans se rater, tuer tout le monde, prendre des dégâts, finir l'avoir du coup en Platinum, mais on n'aura pas le marqueur en plus perfect, c'est-à-dire avoir fait le niveau sans se faire toucher, en plus en étant tout parfait.
Timing parfait tout le long.
Ah, ce qui pour les joueurs un peu acharnés fait une rejouabilité énorme.
Ouais. Et le nombre de niveaux, on a
voilà, donc
à en parler. Puis,
il y a 300 niveaux.
Voilà.
Et dans ces niveaux, c'est pas à chaque fois juste en tuer 50, en tuer 60. Après, des fois, donc, comme je disais, on a des petites variations. Donc, il y a des niveaux de boss où il y a un pattern aléatoire qui va apparaître sous un ennemi. Et il va falloir le faire suffisamment vite pour pas se faire toucher, parce qu'on est en nombre de points limité en général. Vous avez les niveaux qu'on appelle de mob, c'est les niveaux normaux, mais il y a des variantes sur ces niveaux, comme le niveau du vieux film chinois, où il y a un filtre sépia dessus, donc on ne voit pas les couleurs qui apparaissent. Parce que chaque type de personnage a sa couleur aussi, c'est certes des bonhommes en fil de fer, un peu élargi du coup, mais chaque couleur correspond à un pattern. Donc on sait que le jaune est par exemple trois fois rouge. Hop, c'est trois fois la droite. On va taper trois fois à droite. Et là, donc, avec ce filtre sépia, vous ne voyez pas les couleurs. Donc, vous êtes obligé de vous baser juste sur les patterns, voilà,
les patterns
qui sont marqués. Par contre, toujours, les patterns sont marqués en dessous des personnages quand ils arrivent. Donc, vous pouvez quand même vous en sortir. C'est pas, vous ne jouez pas à l'aveugle.
Oui, il y a des niveaux aussi où, en fait, c'est le nombre d'éléments de décor. Ouais, parce que certains éléments du décor sont destructibles. Et il y a certains niveaux où le but, au lieu de tuer tant d'ennemis, c'est de casser tant d'éléments de décor.
Voilà. Ça, qu'est-ce que vous avez encore? Oui, vous avez alors les niveaux, moi, que j'adore. Ce sont les niveaux qui sont au sabre laser et au nunchaku laser.
Ouais, c'est pas mal.
Qui sont des niveaux, en fait, où vous avez votre barre de vie classiquement. Et il arrive, bah, comme d'habitude, de la gauche et la droite des ennemis. Mais vous les one-shotez tous. Ils n'ont pas de pattern. Il suffit juste de les avoir en une fois. Et plus ça va, plus les ennemis arrivent vite. Et ils arrivent vraiment très vite sur la fin, donc il faut bien enchaîner, bien anticiper ce qui se passe. Et comme dernier ennemi, vous tombez sur un spécial qui a un pattern particulièrement long et rapide, et qui est très exigeant. Mais par contre, quand vous avez son pattern est toujours le même quand vous recommencez le niveau. Donc l'apprentissage se fait facilement pour pouvoir le tuer, soit en ayant le moins de dégâts possible si on n'a pas été bon, soit le faire en perfect, comme ça peut arriver. En tout cas, moi, ça m'est arrivé, mais en facile dans le jeu. En normal, j'ai eu plus de difficultés. Toi, ton ressenti, vas-y, dis-moi un peu.
Ouais, bah, j'ai pris ça en main, et la prise en main est super, super rapide, on s'éclate... En 2-2, pourtant je suis pas trop jeu de réflexe, QTE, trucs comme ça. Mais là, il y a une ambiance, une musique, une facilité de prise en main qui ont fait que du coup j'ai craqué et je l'ai acheté pendant les soldes. Alors je sais pas si je vais y jouer énormément, mais c'est un bon jeu. Ouais, c'est un bon jeu pour défouler là. Tu tapes 3-4 niveaux, c'est sympa.
Ah, t'as envie de t'engrainer, tu peux te taper 20 niveaux d'affilée. En plus, voilà, ce qu'il faut préciser, c'est que plus on est bon au jeu, plus le jeu autogère de la difficulté
ouais,
en
tu,
plus.
Tu gagnes aussi des compétences, je crois qu'on l'a pas dit.
Oui, ça on l'a pas dit. Pour t'aider, ouais. Après, voilà, tu débloques en mode histoire des skills. Il y en a 24, il me semble.
Ouais.
Ouais, c'est ça, 3 fois. Soit 24, soit 21, je ne sais plus. Donc en mode facile, 24, on débloque d'abord les skills. Parce que le mode normal, de toute façon, n'est pas accessible. Il faut le faire dans l'ordre. D'abord le mode facile, enfin le mode étudiant, comme ils l'appellent. Le mode maître et le mode... je ne sais même pas quel est le nom du mode, parce que je n'y suis pas arrivé encore. J'en suis à la moitié du mode normal, disons. Et ces skills, en fait, on les débloque au fur et à mesure. Et on peut en facile en avoir 3 d'activés en même temps sur soi, donc qui vont nous aider à avoir plus de flèches quand on va récupérer un arc, par exemple, que normalement on n'a qu'une seule flèche. Là on en aura 3. Ça va nous aider à avoir un temps, par exemple, tous les 30 kills, vous aurez les ennemis qui seront ralentis pendant 10 secondes, donc vous aurez mieux le temps de gérer ce genre de choses. Au bout de 35 kills, vous aurez... ce qu'ils appellent le Deep Impact, qui est en fait un grand coup de poing qu'il met au sol et qui fait table rase de tout ce qui est à l'écran, même les armes qu'on vous jette. Parce qu'il y a ça aussi, des fois ce n'est pas un ennemi que vous devez contrer, mais un couteau, enfin une épée, une lance qu'on vous aura envoyé dessus, que vous pouvez certaines fois récupérer. C'est un jeu qui donne une impression de puissance qui est vraiment très, très bien rendue, parce qu'en ayant juste 2 boutons, vous faites voler les adversaires, vous faites des prises incroyables. Il y a plein de petites animations pendant les niveaux qui vous ralentissent et qui vous permettent de reprendre un petit peu de...
La chorégraphie des combats est jolie, quoi.
Est très jolie. Tout est bien fini au final dans ce jeu. Il y a quelques musiques qui sont un petit peu moyennes, mais pour le prix, c'est pas tellement gênant. C'est quelque chose que, si vous aimez les jeux pas compliqués, défoulatoire, drôle, vous engrainerez facilement dessus. Tiens, on a des iPhones qui volent. Voilà.
Pardon.
Ça c'est un bon petit placement pour faire un peu de défoulatoire. En général, une session de plus d'une heure est difficile quand même, parce que demande beaucoup de réflexes et de concentration, mais très drôle et très gratifiant. On est bien quand on a fini un niveau, on est content de soi.
Bon, moi, je pense que je vais pas reciter le nom du jeu, parce que sinon je vais m'en mêler les pinceaux.
One Finger Death Punch. Ouais, encore une fois, j'y suis arrivé.
Il est trop fort, mais bon, il l'a écrit sous les yeux. Bon, mais on va finir avec les tests de jeu pour cette semaine.
Et ah, merde, c'est toi qui l'as fait la semaine, merci. Ah bah, je la garderai celle-là, tu vois, elle sera pas coupée au montage.
Là, on coupera pas au montage. Donc pour cet épisode, on en a fini avec les tests rétro, merci Buzz. Et on va passer aux remerciements. C'est la fin de cet épisode, donc j'aimerais remercier Emmy pour les graphismes du site, qui sont toujours en cours de réalisation, mais bon, ça la motive un peu de lui dire merci. J'aimerais remercier aussi Amedia Computer, qui est le dernier revendeur, réparateur de matériel Amiga en France. Alors je leur ai envoyé, enfin comme vous avez vu, je pense, si vous nous suivez sur Twitter, j'adore les Amiga, et on leur a envoyé mon Amiga 1200 pour un recapage complet, pour qu'il dure encore plus longtemps. Et je passe la parole à Buzz pour la suite des remerciements.
Alors j'avais décidé de remercier qui, moi, déjà?
Ouais, c'est bien, parce qu'on a fait une pause pour savoir qui tu remerciais.
Oui, et j'ai oublié le cerveau de Playmobil.
Alors, Dave, pas le chanteur,
voilà.
L'autre.
Ah ouais. Alors moi, de mon côté, je voudrais remercier un ami là, que je connais depuis des années, qui me custom mes consoles quand j'en ai besoin.
Ils ont joué au docteur ensemble, paraît-il, petit.
Oh, c'était il y a longtemps. On a perdu le stéthoscope. On n'a toujours pas retrouvé, on ne sait pas. En tout cas, ça sent pas bon, cette histoire. Enfin, je voudrais le remercier pour avoir modifié la Famicom que mon ami Laz m'a offert pour mon anniversaire et pour les bienfaits du podcast aussi.
Ah, pour les non japanophiles, japanophages, non, ça c'est ceux qui mangent du japonais, ça existe.
Ouais,
pas.
Non.
La Famicom, c'est ce qu'on appelle chez nous une NES de chez Nintendo.
Voilà.
Donc la première console de salon de Nintendo au Japon.
Voilà. Qui n'a pas tout à fait la même forme, tout ça, et qui avait une sortie, du coup, antenne pour faire la vidéo, et lui me l'a modifiée pour avoir du S-Vidéo dessus. Et du coup, elle marche très bien, c'est au top. Je voudrais grandement le remercier pour ça, et pour toutes les autres consoles qu'il m'a fait, d'ailleurs. Et encore un remerciement spécial pour lui, parce que à chaque fois qu'on a essayé de lancer le Tekken qu'on possédait, eh ben, malheureusement, il ne passait pas. On a eu un problème de jeu, donc lui nous a prêté le sien, un original Jap d'époque, et on n'aurait pas pu faire le test sans lui, on le remercie aussi pour ça. Merci mon Dave-ou.
Merci Dave. Ciao ciao.
Allez, c'en est fini pour cet épisode 2, on vous dit à bientôt et...
Et bon rétro gaming.
Et bon rétro gaming.